Eh bien, bonsoir à tous et bienvenue à l'Institut d'astrophysique de Paris. Nous sommes très heureux de vous accueillir de nouveau dans notre amphithéâtre qui est plein, ça fait plaisir à voir. Donc merci aux dernières personnes de bien vouloir s'asseoir rapidement. Et puis bonjour à tous ceux qui nous suivent en direct ou en différé sur YouTube. Donc pour ce début de cette saison des conférences publiques mensuelles de l'Institut d'astrophysique de Paris, tous les premiers mardis du mois, donc ici dans notre amphithéâtre et en direct sur notre chaîne YouTube. Donc à la fin de la conférence, je vous présenterai notre orateur dans quelques instants. À la fin de la conférence, la salle pourra poser des questions, faire des remarques à notre orateur. Et puis de la même manière, les personnes qui nous suivent en direct sur YouTube, vous pouvez vous exprimer sur le chat si vous avez des questions, des commentaires à faire. À la fin, je ferai de mon mieux pour te les retranscrire. Et donc, vu que c'est le début de la saison, je vous présente juste les prochaines conférences. Donc, le mardi 1er octobre, nous recevrons Jean-Charles Cuyandre, notre collègue. Alors, on n'a pas encore reçu son résumé, mais on va le recevoir d'ici peu, j'espère. Je peux déjà vous dire qu'il va vous parler des premiers résultats du satellite observatoire Euclide. Donc, Euclide, c'est un satellite qui a été lancé l'année dernière, qui étudie l'univers très primordial, un observatoire spatial dans lequel notre institut ici est très impliqué. Donc, les réservations, c'est à partir de demain matin. Le 5 novembre, nous recevrons notre collègue de l'Institut d'astrophysique, Alain Le Cavalier des Étangs, qui nous parlera d'exocomètes, donc les comètes qui tournent autour d'autres étoiles que le Soleil, qu'on observe ici même et ailleurs depuis une quarantaine d'années. Et puis nous finirons l'année le 3 décembre 2024 avec notre collègue Paola Di Matteo de l'Observatoire de Paris, qui nous présentera une conférence, là aussi je n'ai pas encore le titre, mais on va bientôt la voir, bon, on sait déjà de quoi elle va parler. Elle va parler à l'occasion des 100 ans de la découverte d'Edwin Hubble en décembre 1924, Edwin Hubble publiait la découverte comme quoi les galaxies étaient au-delà de notre galaxie, donc on découvrait que ces nébuleuses un peu spirales, ces nébuleuses spirales en fait étaient au-delà de notre galaxie, donc on découvrait les galaxies, l'univers à grande échelle, donc c'est un résultat qui aura 100 ans en décembre prochain, et donc Paola nous fera une conférence à ce sujet-là pour parler de cette découverte il y a 100 ans et de ce que l'on sait maintenant. Et puis ce sera également cette semaine-là, dans ce même amphithéâtre, se tiendra toute la semaine une conférence internationale avec des scientifiques qui viendront parler justement des galaxies primordiales étudiées avec le télescope James Webb. Donc, cette conférence pour chercheurs et chercheuses, elle ne sera pas publique, elle sera réservée aux professionnels, mais donc le soir, le mardi 3 décembre, donc nous aurons une conférence publique donc qui sera ouverte à tous, comme celle de ce soir. Et donc ce soir, nous avons le plaisir de recevoir pour cette conférence publique Éric Lagadec. Donc Éric, tu es enseignant-chercheur à l'Observatoire de la Côte d'Azur à Nice. Préalablement, tu as travaillé à l'Université de Manchester en Angleterre, à l'Observatoire européen austral à Munich, où on s'était croisé justement, en Allemagne, à l'Université de Cornell aux États-Unis, avant de revenir à Nice, où maintenant tu travailles, où tu avais fait ta thèse quelques années avant. Tu es spécialiste de physique stellaire, notamment les étoiles à la fin de leur vie. Alors la physique stellaire, c'est un peu la base de l'astrophysique. Il n'y a pas beaucoup d'astrophysique qui peut se passer de physique stellaire. On voit des étoiles partout dans l'univers, donc c'est une des plus vieilles disciplines de l'astrophysique, mais qui est toujours très importante. Et puis dans tes autres activités, tu as été président de la Société française d'astronomie et d'astrophysique, et puis tu es très impliqué pour la diffusion de la culture scientifique, notamment tu es impliqué dans le journal L'Astronomie Afrique, tu es très présent sur les réseaux sociaux en publiant très souvent des annonces, des actualités en astronomie qui sont très suivies. Tu es en ce moment également en train de faire un spectacle avec Guillaume Meurice qui s'intitule « Vers l'infini, mais pas au-delà ». Tu as publié l'année dernière un livre au seuil qui s'intitule « L'Odyssée cosmique » et puis tu fais de nombreuses conférences, donc notamment ce soir, tu vas nous présenter une conférence qui s'intitule « Nous sommes des poussières d'étoiles », donc avec une pensée et un clin d'œil au regretté Hubert Reeves qui s'est exprimé très souvent dans cet amphithéâtre. Donc voilà, je t'en prie.
Ben bonjour, est-ce que vous m'entendez déjà ? Donc ben merci d'être là. En fait, je voulais dire un petit mot sur Guillaume. C'est assez particulier pour moi d'être avec Guillaume aujourd'hui. Guillaume, c'est le premier astrophysicien avec qui j'ai interagi ça fait presque 25 ans. En fait, je voulais faire de l'astrophysique et j'ai un ami qui me dit « Tiens, je connais un astrophysicien ». Puis à l'époque, j'ai « Waouh, un astrophysicien !» C'était cool. Aujourd'hui, je pense qu'on me dit « Un astrophysicien ?» Je fais « Ouais, un astrophysicien ». Mais Guillaume, c'était comme quelqu'un d'assez particulier qui m'a donné quelques conseils quand j'étais jeune et quand j'avais encore beaucoup de cheveux. Donc le titre de la conférence aujourd'hui, c'est « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Qui a déjà entendu parler de « Nous sommes des poussières d'étoiles » Levez la main. Qui n'a jamais entendu? Et qui n'a pas levé la main? Donc il va falloir suivre un petit peu. En fait, c'est assez intéressant que tu aies parlé d'Uber Eats, parce que je pense que dans l'inconscient, la plupart des gens, quand on vous parle de Nous sommes des poussières d'étoiles, vous pensez à Uber Eats ou à Carl Sagan. Je pense que quelques personnes ont pensé à Carl Sagan. Mais il faut savoir que la personne qui a montré que nous étions des poussières d'étoiles, c'est Margaret Burbidge. Margaret Burbidge, c'est une femme très brillante qui a écrit l'un des articles les plus importants pour la physique stellaire. Et malheureusement, on a tendance à oublier quand c'est des femmes qui font des choses importantes. Donc je pense que c'était le premier petit message. J'aime bien montrer mes photos de vacances, mais c'est pas que ça. Mais oui, j'aime bien montrer mes photos de vacances. En fait, la question qu'on va se poser aujourd'hui, si on observe la Terre, vous voyez qu'il y a plein de diversité. Diversité de paysages, de faune, de flore. Il y a aussi des photos des crêpes de ma mère. Je pense que vous allez vous rendre compte rapidement que ma plante de la Gadec, je ne suis pas né à Nice. Donc, cette vidéo, je l'adore. Tu parlais d'Uber Eats tout à l'heure, je l'avais montré à Uber, il m'a dit qu'il avait adoré. Dans son dernier livre, il a pris des images qui venaient de cette vidéo. C'est une vidéo où on voit la Terre qui respire pendant les saisons. Donc on voit la forêt équatoriale qui grandit pendant l'été, la glace et la neige vers les pôles qui augmentent pendant l'hiver. Donc on voit vraiment cette planète qui respire. Et la question qu'on va se poser aujourd'hui, c'est d'où vient toute cette diversité? Si vous n'avez pas de questions à poser à la fin, je vous dis, demandez-moi pourquoi j'ai tourné cette conférence comme ça, vous aurez une réponse intéressante et on coupera la vidéo parce que c'est en direct sur YouTube. Donc la question qu'on va se poser, c'est d'où vient toute cette diversité? On va faire un petit voyage. J'espère que vous n'êtes pas pressés, ça va durer 13,8 milliards d'années. Je ferai quelques raccourcis, évidemment, sinon ça va être long. Là, je commence par cette image, je pense que quelques personnes l'ont vue. Cette image, c'est la plus vieille image connue de l'univers. Là, est-ce qu'il y a des astrophysiciens dans la salle? Il y en a deux. Donc vous êtes peut-être au courant qu'il y a un grand débat dans la communauté astronomique actuelle pour savoir si la plus vieille image était celle-ci ou celle-là, donc on ne sait pas trop. Mais le débat, bon, ça viendra peut-être un jour. Bon, un peu plus sérieusement, cette image, pour comprendre ça, tu parlais tout à l'heure de Hubble, donc Edwin Hubble qu'on voit ici en Californie. En 1929, il montre que toutes les galaxies s'éloignent de nous. Toutes les galaxies s'éloignent de nous, on peut se dire, bon, on est le centre de l'univers, les humains ont tendance à penser qu'ils sont le centre de l'univers, mais c'est plus compliqué que ça. Est-ce qu'il y a des Belges dans la salle? Ou est-ce qu'il y a des Belges susceptibles, surtout, dans la salle? Non? Bon, visiblement, non. Parce qu'en fait, celui qui a expliqué ça, c'est un abbé. Parce qu'ils ne sont pas si cons que ça, finalement, les Belges. Non, il n'y a pas de Belges susceptibles, ça va. En fait, il se dit que si l'univers est en expansion, accrochez-vous, il devait être plus petit hier qu'aujourd'hui. Je vous laisse... ça va? Ce qui est intéressant, c'est que si on rejoue le film de l'expansion de l'univers en arrière, on arrive à un instant de création. Donc c'est le début, ça fait 13,8 milliards d'années, la température est infinie, la densité est infinie. C'est une idée qui n'est pas acceptée au départ. La théorie du Big Bang, en fait, il faut savoir que c'est Fred Hoyle qui l'a nommée comme ça, c'était une émission à la BBC. Et il se moquait un petit peu de l'abbé Lemaître en disant « ouais, c'est comme s'il y avait eu un gros bang, en fait ». Donc le mot Big Bang, c'était quelqu'un qui se moquait de l'abbé Lemaître. Pour l'anecdote, c'était il y a un an, je crois, je me retrouvais à la télé belge avec quelqu'un de la famille Lemaître. Et il dit, en fait, c'est dommage, en Belgique, les gens ne savent pas que la théorie du Big Bang vient d'un Belge. On va faire une journée spéciale. Bonne idée. Vous êtes tous endormis. Bonne idée. Ouais. Alors du coup, ils choisissent une date. Et on se dit, le mec, il a fait une découverte. Bon, ils vont faire soit le jour où il a eu l'idée, le jour où il a publié. On va quand même pas faire le jour où quelqu'un s'est foutu de sa gueule. Ça serait con. On est d'accord? Bon, ils ont choisi la troisième option. Donc il y a une journée du Big Bang pour le jour où Fred Hoyle a nommé la théorie du Big Bang. Donc on avance un petit peu dans le temps, parce que 13,8 milliards d'années, ça va être long. L'univers est en expansion. 379 000 ans après le Big Bang, l'univers devient assez froid. Il fait quelques milliers de degrés. Je vais simplifier un petit peu, on va former, pendant ce qu'on appelle la nucléosynthèse primordiale, on va former les atomes les plus simples. Donc aujourd'hui, on va dire qu'il n'y a quasiment que de l'hydrogène et de l'hélium. Je vois des gens qui prennent des notes. Hydrogène et hélium, vous allez le noter plein de fois, parce que c'est un truc important. Donc on va arriver à cette image, que je vous ai montrée tout à l'heure. Qu'est-ce qu'on voit là? Il faut savoir que juste après, donc 379 000 ans après le Big Bang, on a une soupe d'hydrogène et d'hélium avec quelques grumeaux. Pourquoi c'est la plus vieille image de l'univers? En fait, quand il fait chaud, bon, imaginons un atome d'hydrogène, c'est un proton, un électron qui tourne autour. Quand il fait chaud, on a un brouillard d'électrons. Un brouillard d'électrons dans la vie de tous les jours, ça ne se voit pas souvent. Moi, j'ai grandi en Bretagne, le brouillard, je le voyais souvent. Qu'est-ce qui se passe? C'est de l'eau, c'est de la vapeur d'eau, vous mettez les phares de voiture, la lumière n'arrive pas à passer parce qu'elle interagit en permanence avec l'eau. où là, ce qui se passe, c'est que les électrons empêchent la lumière de passer. Donc l'univers est opaque à la lumière. L'univers est en expansion, il se refroidit. Les électrons, ils vont se rattacher au noyau, et du coup, la lumière peut partir. Donc c'est, ça, c'est de là que vient la première lumière, cette lumière qui a été émise juste après le Big Bang. Pour l'anecdote, c'est l'une des découvertes les plus rigolotes, je pense, que, dont j'ai entendu parler, c'est de deux astronomes américains qui avaient un radiotélescope qui voulaient étudier la Voie lactée. Et ils observent, ils voient quelque chose dans toutes les directions. Dans toutes les directions, ils voient un signal, ils ne savent pas ce que c'est. Quand j'ai écrit mon bouquin, j'ai quand même été lire l'article où il parlait de la découverte. Le mec il disait, on a un signal, ça pourrait être dû à un bruit parasite. Il voit qu'il y a des pigeons sur leur télescope et qu'il y a un petit produit blanc qui s'échappe de l'arrière-train du pigeon qui se met sur les parois du télescope. Donc il nettoie le télescope, je ne sais pas s'il nettoie les pigeons. Vous avez des images dans la tête, c'est pas bon. Et dans l'article, ils expliquent qu'ils ont enlevé un produit diélectrique blanc. Donc je vous laisse deviner ce qu'était le produit diélectrique blanc. Et finalement, c'était pas un paradis, c'était vraiment une lumière qui est dans toutes les directions. Et ils ont vu le rayonnement fossile du Big Bang. C'était une confirmation assez extraordinaire du Big Bang. Ils ont eu le prix Nobel pour ça. Et c'est ce qu'on voit aujourd'hui. Donc ça, c'est une carte qui a été produite par le satellite Planck, qui permet de comprendre l'origine de l'univers, enfin l'univers quand il était très jeune. Alors, le Big Bang, je vous ai dit, est formé principalement d'hydrogène et l'hélium. Ça fait deux fois. Vous prenez des notes. Non, c'est bon, vous avez déjà fait la première fois. La question qu'on va se poser, c'est mais d'où viennent tous les autres atomes, sachant que la conférence s'appelle « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Petit indice, à mon avis. Donc, ça vient d'où, à votre avis? On va avancer un petit peu. Quelques centaines de millions d'années après le Big Bang, on va former les premières galaxies, dont la Voie lactée. Comment ça se marche? Donc, on a des immenses nuages de gaz qui sont faits d'hydrogène et d'hélium, ça fait trois fois. Avec la gravitation font que les masses s'attirent. Comme j'explique à mes étudiants, la gravitation, c'est ce qui les empêche de se lever le vendredi matin. C'est localisé au-dessus de leur lit, en général. Donc, les masses vont s'attirer, on va former des structures de plus en plus grandes, et c'est comme ça qu'on forme les premières galaxies. Alors là, je vais vous poser une question. Qui a déjà vu ça? En général, quand je le fais dans des réserves du ciel étoilé, tout le monde me dit qu'il a vu. Je peux vous poser la question, qui a déjà vu ça à Paris? Non? Qui a déjà vu ça sinon? En fait, c'est ça qui est triste quand on fait des conférences dans les grandes villes, on se rend compte qu'il y a très peu de gens qui ont accès au plus vieil héritage commun de l'humanité, qui est le ciel. Avec les lumières des villes, on perd accès à ça. Et je vous invite vraiment, en fait, en France, on a de la chance, on a plusieurs réserves, on en a six, maintenant six réserves internationales du ciel étoilé, des endroits où les lumières sont éteintes, on peut voir la Voie lactée. Toi qui vis à Manos, qui travaille à l'Observatoire de Haute-Provence, tu peux voir une belle Voie lactée. Et ce qu'on voit ici, c'est notre... je n'ai rien, on va prendre un livre. Je fais de la pub comme ça pour Daniel Kuhn qui m'a donné son livre. Imaginez, la galaxie, c'est un disque. Je laisse un petit peu devant la caméra, comme ça je fais une bonne pub. De rien. Et ben, comme on est dedans, on le voit par la tranche. Donc c'est ce qu'on voit ici. C'est la tranche de la Voie lactée. Le livre, il a l'air très bien, je ne l'ai pas encore lu. Tu me donneras ce que tu m'avais dit après. Donc ça, c'est notre galaxie qu'on peut voir. Parce que c'est assez impressionnant. Elle s'est formée quelques centaines de millions d'années après le Big Bang. Dans cette galaxie, on a des nuages de gaz qui, encore une fois, sous l'effet de la gravitation, les particules vont se rapprocher. Donc les nuages de gaz vont s'effondrer. Donc ce qu'on voit, ce n'est pas une vraie observation. Que des fois me disant, comment vous avez filmé ça? C'est une vue d'artiste. Et si vous avez des questions à me poser, demandez-moi aussi pourquoi ça forme un disque, si vous n'avez pas quelles questions poser à la fin. J'aurai une réponse intéressante, je pense. Donc, ouais, j'aime bien forcer les questions. Donc au centre... La gravitation va faire que les particules vont se rapprocher, ils vont même fusionner, ça va former une étoile, on en parlera tout à l'heure. Et autour des étoiles, on va avoir un disque de gaz et de poussière. Dans ce disque de gaz et de poussière, on va avoir des grumeaux, ça va former des protoplanètes, des petites planètes qui vont se former. Vous en voyez quelques-unes qui apparaissent là. Ces planètes vont former des sillons, et c'est comme ça qu'on forme les planètes. Donc on va avoir un nuage de gaz qui s'effondre, une étoile qui se forme autour, un disque, et les planètes se forment dans le disque. Alors ça, je pense qu'à l'époque où j'ai commencé à faire de l'astronomie, à l'époque, c'est que je parlais comme si j'étais vieux, mais enfin, je commence quand même, ça fait presque 25 ans, on était à ce niveau-là, on pense que ça se passe comme ça. Bon, je vais vous montrer ce qu'on peut faire aujourd'hui. Alors, imaginez, vous zoomez dans la Voie lactée. Donc tout ce qui est rose, là, c'est du gaz qui est chauffé, et c'est des régions où se forment des étoiles. Donc là, on va aller dans un endroit qui s'observe très facilement dans l'hémisphère sud, la carène, peut-être des gens qui connaissent ici. Et dans cette région-là, il y a des étoiles qui se forment. Donc on fait un voyage de quelques milliers d'années-lumière. Et c'est joli. Non ? Bon, là, l'image d'après, après, vous allez faire « waouh », on va regarder. Parce que quand on pointe le télescope Hubble vers cette région, regardez ce qu'on peut observer. Alors, les gens font « waouh », d'habitude, je refais. Quand on pointe le télescope Hubble dans cette direction, en général, c'est ce qu'on voit. J'aime bien la spontanéité des gens à l'IAP. Donc là, ce qu'on voit, c'est des étoiles qui se forment, notamment en haut. Il y en a une avec des jets assez spectaculaires. Et l'une des quatre premières images du JWST, c'était aussi dans cette direction. C'était la nébuleuse de la Carène. Comme tu m'as dit tout à l'heure, c'est l'image, si vous voulez la voir, elle est en grand à l'entrée. Cette image, elle est extraordinaire, parce que non seulement elle est belle, je pense que vous n'avez pas fait « waouh », mais je suis sûr que c'était « waouh » dans votre tête quand même. Là, ce qu'on voit, c'est beau esthétiquement, mais quand on voit ce qui se passe, c'est encore plus hallucinant. Donc, en haut, on a des étoiles qui sont déjà nées. Vous voulez me voir faire le chasse-neige ? Je me suis entraîné, j'ai un prof de théâtre. En fait, imaginez un chasse-neige comme ça, il va pousser la neige, ça va créer des murs un petit peu plus denses. Là, ce qui se passe, c'est qu'on a des étoiles, leur rayonnement va pousser tout le gaz. Je refais le chasse-neige, je le fais super bien. J'ai appris à le faire, je le fais au moins deux fois. Et ça va créer ce qu'on appelle ici les falaises de la création, donc c'est les falaises de la carène, pardon. Donc on aura le gaz qui va être poussé d'un côté. Donc le rayonnement des étoiles va détruire en partie le gaz, mais aussi le pousser, ce qui va le rendre plus dense et entraîner l'effondrement des nuages de gaz et entraîner la formation des étoiles. Donc il y a un combat permanent entre les étoiles qui vont en partie détruire le gaz, mais aussi le faire se compresser et créer la formation d'étoiles. Il y a d'autres régions qui sont assez extraordinaires, qui sont un peu plus proches, comme les piliers de la création. Qui n'a jamais vu cette image ? Elle est belle, hein ? Oui. Vous êtes content de l'avoir vue ce soir. Donc les piliers de la création, c'est moi, personnellement, c'est l'une des images qui m'avait marqué. Ça avait été observé par le télescope Hubble le 1er avril 1995. Je ne connais pas la date de toutes les observations du télescope Hubble, mais celle-là, je l'avais retenue. Et je pense que ça avait marqué ma génération, et j'imagine que cette image, elle pourrait marquer aussi une génération, ça donnera peut-être envie à des personnes de faire de l'astronomie. Et là, ce qu'on voit aussi, c'est des étoiles en train de se former, les piliers de la création. Il y a des zones qui ont des régions qui ont des formes assez étonnantes. Il y a cette nébuleuse aussi, que j'adore, que mon collègue qui est assis là avait nommé la nébuleuse 49-3. Je ne sais pas pourquoi il l'avait nommée comme ça. Je passerai tous les commentaires qu'il y avait derrière. Dans le milieu, elle s'appelle la Middle Finger Nebula. Pour l'anecdote, j'avais présenté ça à Cannes. Je ne sais pas si vous connaissez Cannes, la ville. J'habite Nice, en fait. Cannes, c'est l'une des villes qui porte le mieux son nom en France. Il y a pas mal de personnes âgées. Et au premier rang, il y avait une femme qui fêtait ses 100 ans ce jour-là. Donc je montre ça, et puis là, qu'est-ce qu'il dit ? Il y a son voisin qui fait « il montre un doigt !» C'est assez... Et la fois d'après, elle n'était plus là, malheureusement. Enfin, c'est pas toujours drôle. Et quand on regarde le ciel, ça fait aussi pas mal de pareidolies quand on observe avec les télescopes. C'est ce que c'est une pareidolie. Quand vous regardez des nuages, des fois on voit des lapins, des choses comme ça. C'est quelque chose qu'on garde. Quand l'humanité a commencé, pour se défendre, il fallait être capable de voir si on allait être attaqué ou pas. Donc notre cerveau a gardé ça. C'est un truc qui est resté d'évolution. Donc on a tendance à avoir des formes familières dans le ciel. J'avais posté ça sur Twitter en demandant qu'est-ce que vous voyez. Je ne sais pas ce que vous voyez, vous, par exemple. Vous voyez des formes étonnantes. Et... J'ai des gens qui me suivent, qui ont du talent. Je ne sais pas si des gens connaissent Boulet, c'est un dessinateur qui est assez brillant. Et quelques minutes après, il m'a renvoyé ça. Je trouve ça assez cool. Donc pour Jean-Michel premier degré, non, il n'y a pas de chien, c'est vraiment c'est une vision de l'esprit. Bon, en tout cas, je trouve ces images sont assez extraordinaires, parce qu'elles sont belles, elles nous font rêver, puis en plus, elles nous font apprendre pas mal de choses. Et moi, je travaille beaucoup avec un instrument qui s'appelle Sphere. Donc c'est un instrument qui est installé sur le VLT. Donc pour ceux qui connaissent un petit peu l'astronomie, je vais dire des termes techniques, c'est un instrument qui fait de l'optique adaptative extrême. En gros, il corrige l'effet de l'atmosphère, ce qui nous permet de faire des images très nettes. Et c'est l'instrument qui est capable de faire les images les plus nettes dans le visible avec un seul télescope. Les superlatifs, il faut toujours mettre plein de trucs pour être juste. Mais ça, c'est juste. Et ce qu'on fait depuis maintenant 2014, c'est qu'on observe notamment des étoiles jeunes. Et vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous avais montré cette vidéo où on voyait la formation des étoiles, on disait qu'il y avait une étoile au centre, un disque qui allait se former, quand il y avait des planètes qui se formaient, il y avait des sillons qui allaient se former dans le disque. Aujourd'hui, on les voit, ces sillons. Celle à droite, ce n'est pas fait par Sphere, c'est fait par un télescope qui s'appelle ALMA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est capable de voir ces disques qu'on prévoyait, sa date de Kant et de Laplace, la prévision de ces disques. Maintenant, on les voit. Et en haut à droite, je pense que pour moi, c'était l'un des plus grands moments de ma carrière, c'est que donc, je travaille à la réduction des données, c'est-à-dire que les données arrivent du télescope, et on les rend utilisables par les scientifiques. Et on réduit les données donc, de cet instrument au milieu, là. cet objet qui s'appelle PDS-70. Et la première fois, on voit un point. Et en fait, quand on est scientifique, c'est un peu l'inverse des complotistes. Donc les complotistes, ils voient un truc, ils font « c'est bon, j'ai raison ». Nous, les scientifiques, on voit un truc qu'on s'attendait à voir, parce qu'eux, ils voient un truc, même ils s'en foutent, ils s'attendent à le voir ou pas. Donc en s'attendant à le voir, on le voit, on se dit « on a dû faire une connerie quelque part, c'est pas possible, c'est trop simple ». Donc on était une dizaine, je pense qu'on a passé 2-3 jours, chaque fois on refaisait, on faisait des trucs indépendamment. Puis en fait, ce point, il réapparaissait à chaque fois. On a même demandé à des gens d'utiliser de différents algorithmes. Et au bout d'un moment, on a été convaincus. Voilà, ce qu'on voyait, c'était la première fois qu'on faisait une image directe d'une planète en train de se former. Je ne sais pas si vous imaginez, c'était la première fois que dans l'histoire de l'humanité qu'on voyait, qu'on avait l'image d'une planète. Là, ça mérite un petit « wow » quand même. C'est pas pour moi, parce que moi j'y suis pour rien, mais les gens qui ont fait ça après, franchement, je sais pas si vous y rendez compte. On est passé de Kant et Laplace qui se disent « on pense que les planètes se forment dans les disques », on regarde où sortent les étoiles et les planètes, on voit les disques, on arrive même à voir les planètes se former. Et encore plus hallucinant, c'est une collègue qui s'appelle Myriam Benesti qui a observé ça. Hop, ça va arriver. Elle, ce qu'elle a vu, c'est qu'il y avait une planète en train de se former avec un disque autour, et dans ce disque, on pense qu'il y a des lunes qui vont se former. Donc on est passé de « on pense que les étoiles se forment là », on voit les disques où les planètes se forment, on voit les planètes se former, et on voit le disque où vont se former les lunes. C'est cool. Franchement, c'est... Donc on continue. Je pense que je vous ai déjà dit que le Big Bang avait formé principalement de l'hydrogène et de l'hélium. Si vous ne savez pas, il y a des gens qui ont pris des notes à la fin, vous pourrez copier. Alors la question qu'on va se poser, si on n'a que de l'hydrogène et de l'hélium, on ne peut pas former une planète comme la Terre. Regardez la Terre. Elle est faite en grande partie de fer, d'oxygène, de silicium et de magnésium. Ça fait 93% de la composition de la Terre. Si on prend la croûte terrestre, c'est fait en grande partie de silicium, d'oxygène, d'aluminium. Vous faites des mélanges de silicium, d'oxygène, d'aluminium, ça va vous faire différentes formes de sable. On n'a pas ça. On continue. On ne peut pas avoir d'être humain non plus. Comme j'aime bien dire, même les Bretons sont faits en grande partie d'eau. Ça, c'est fait. Et donc, de l'eau, il y a de l'hydrogène, mais on n'a pas l'oxygène. On a besoin de carbone, la vie elle est basée sur le carbone, la vie telle qu'on la connaît au moins, elle est basée sur le carbone, on a besoin d'azote. Tout ça, on ne l'a pas. Alors, d'où ça vient tout ça? Sachant que la conférence s'appelle « Nous sommes des poussières d'étoiles ». Vous avez 2 secondes. Un, deux, il y a un...
Fusion.
Fusion, voilà. Encore plus précis que ce que je m'attendais. La fusion des étoiles, exactement. Alors, pourquoi les étoiles brillent? Oui, viens. Non, mais c'est cool. En fait, c'est ça, les étoiles brillent, parce que ça, c'est quelque chose... Aujourd'hui, ça semble évident, mais il y a un siècle, on ne savait pas d'où venait l'énergie des étoiles. Les gens disaient, c'est peut-être une grande boule de feu, mais une boule de feu, ça ne tiendrait pas assez longtemps. On pensait aussi que c'était quelque chose qui se contractait et qu'il y avait des comètes qui arrivaient, qui redonnaient de l'énergie au Soleil. C'est pour ça qu'il y avait des taches solaires. Mais en fait, non, c'est un peu plus compliqué que ça. Donc le Soleil, il a une puissance de 3,846 x 10 puissance 26 watts. Pourquoi je vous mets ça? Pour les gens de ma génération, c'est juste pour vous montrer que Doc, finalement, avec le Soleil, il aurait pu avoir assez. C'était quelques milliards de milliards de fois plus que ce dont avait besoin Doc dans Retour vers le futur pour faire partir la DeLorean, pour ceux qui n'avaient pas la référence. Donc c'est les réactions nucléaires qui sont la source d'énergie du Soleil. Comment on le sait? Il y a ce mec en haut qui a fait quelques études, il a cherché E égale MA2, ça ne marchait pas, MB2, ça ne marchait pas non plus. E égale MC2, tout le monde connaît. Qui connaît? Levez la main. Qui peut me l'expliquer? C'est pour voir la vitesse à laquelle les mains descendent. C'est pas moi, j'ai pas levé la main. En fait, c'est assez simple. Donc, je vous montrais tout à l'heure que les étoiles se forment suite à l'effondrement d'un nuage de gaz et de poussière. Donc, les atomes vont se rapprocher. Ils vont tellement se rapprocher que la pression et la température vont augmenter. Donc, on va avoir de la fusion nucléaire. Les petits atomes d'hydrogène vont fusionner pour donner des plus grands atomes d'hélium. Donc, en gros, on a 4 atomes d'hydrogène qui vont donner un atome d'hélium plus de l'énergie. Je vais vous faire des maths hyper compliquées. Chaque seconde, le Soleil brûle 600 millions de tonnes d'hydrogène. Ça produit 596 millions de tonnes d'hélium. Parce qu'il y a un mec qui a fait un bac L. Toi, tu as fait un bac L. Du coup, ça fait combien de millions de tonnes on perd, sachant que c'est écrit en dessous? C'est transpire. Donc, il faut se rendre compte que le Soleil, chaque seconde, il perd 4 millions de tonnes de matière. E égale MC2. Donc, ça veut dire que potentiellement, l'énergie qu'on a, c'est égal à la masse multipliée par C, la vitesse de la lumière, 300 000 km par seconde, au carré. Donc si pour M, on prend 4 millions de tonnes, et pour C, 300 000 km par seconde au carré, pour être quantitatif, ça fait un super grand chiffre. J'aime bien être précis. C'est l'équivalent de 10 milliards de bombes à hydrogène chaque seconde. Donc le Soleil produit énormément d'énergie. Est-ce que vous êtes prêts pour voir une photo extraordinaire? C'est... Ouais, merci. Commence à se réveiller un petit peu. C'est la sieste d'il n'y a pas longtemps, c'est ça? En fait, j'ai une photo du Soleil en Bretagne. Ça veut dire qu'on peut la dater, on sait qu'elle date d'avant ma naissance en 1980. C'est quand même assez extraordinaire. Et ce que je vous montre là, c'est pour vous montrer, et c'est aussi pour placer des mots sympas en soirée, si vous avez des gens pas intéressants à qui vous passez des soirées. Le Soleil, il est sur ce qu'on appelle la séquence principale. Qui a déjà placé le mot séquence principale en soirée? Ouais. On ne fait pas les mêmes soirées, mais je suis ravi de l'entendre en tout cas. Le Soleil, la séquence principale, c'est quand on fait de la fusion d'hydrogène en hélium. C'est la plus longue période d'évolution d'une étoile. Il faut savoir que 90% de leur vie, toutes les étoiles, elles vont transformer de l'hydrogène en hélium. Quelque chose qui est assez contre-intuitif, c'est que plus une étoile est massive, moins elle vit longtemps. On a tendance à penser que si l'étoile elle est plus grande, elle a plus d'hydrogène, elle a un plus grand réservoir, elle devrait vivre plus longtemps. J'aime bien faire l'analogie. Il n'y a personne qui a un gros 4x4 ici? Si, bon, personne qui a un gros 4x4 et qui est susceptible. En fait, si vous avez une petite voiture, vous avez un plus petit réservoir. Si vous avez un 4x4, vous avez un plus gros réservoir. Ça ne veut pas dire que vous allez rouler plus longtemps, parce qu'en général, quand on a un gros 4x4, on a un moteur plus puissant et on pollue plus vite. Non, on brûle l'essence plus vite, pardon. J'ai ma langue qui a fourché. Ben, c'est pareil pour les étoiles. Quand l'étoile est plus grande, la gravitation va être plus forte, les réactions nucléaires vont être plus efficaces, donc ça va durer moins longtemps. Alors tout à l'heure, je crois que j'ai dit 4-5 fois hydrogène et hélium, j'avais compris que ma manière de faire de la pédagogie, c'est de répéter les choses. Ce truc-là, je vais vous le montrer 3-4-5 fois. Ça veut dire que si vous avez compris ça, vous avez tout compris à la conférence. Donc là, je vous le fais en 30 secondes, et après je détaille, c'est pour ceux qui veulent dormir au fond auprès du radiateur. Donc les étoiles se forment dans le milieu interstellaire. Le milieu interstellaire, si vous avez fait un peu de latin, c'est le milieu entre les étoiles. C'est des nuages. Après le Big Bang, c'est quasiment que l'hydrogène et l'hélium. Les étoiles qui sont massives, c'est à droite, elles vont devenir des supergéantes rouges exposées en supernova, et ensuite ça va donner une étoile à neutrons ou un trou noir. J'ai dit le mot trou noir, j'aurai forcément une question sur les trous noirs après. À gauche, les étoiles de faible masse, elles vont devenir des géantes rouges, ensuite ça va donner des nébuleuses planétaires, former une naine blanche, et toute la matière va repartir. Donc c'est un cycle comme ça, et je vais vous expliquer tout ce cycle. Pour ça, je vais vous faire une expérience. Est-ce que vous savez fermer les yeux ? On va fermer les yeux. Imaginez, une étoile, c'est un combat entre deux forces. Non, vraiment, fermez les yeux. Imaginez qu'il y a la gravité qui pousse vers le centre, et dans l'autre côté, il y a les réactions nucléaires qui poussent vers la surface. C'est bon, vous l'avez? En fait, la dernière fois que je l'ai fait, c'était à Saint-Etienne, j'ai oublié de dire aux gens d'ouvrir les yeux, il y a la moitié qui a oublié de rouvrir. Donc, rouvrez les yeux. Si vous ronflez, je vous dirai. Et ça, c'est ce qu'on appelle un autre mot à placer en soirée. Je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, équilibre hydrostatique. Ça peut être un défi aussi. Donc, il faut voir qu'une étoile, c'est un combat permanent entre ces deux forces. Et si vous avez compris ça, vous avez quasiment tout compris à la vie et à la mort d'une étoile. En fait, souvent, il y a des gens, je fais beaucoup de vulgarisation, les gens, ils pensent avoir compris les étoiles, donc ils savent ce qui se passe, mais ils ne comprennent pas la physique derrière. Je pense qu'avec ça, vous allez comprendre la physique. Donc on avance. Là, c'est le seul diagramme un peu compliqué, mais on m'a dit qu'on était à l'IAP, que j'avais un public qui connaissait bien les sciences, mais je vais quand même m'expliquer simplement. Parce qu'il y a Guillaume Meurice à la salle. Il faut quand même expliquer aux gens à très bas niveau. Donc. Le Soleil, quand il est né, c'est ce qu'on voit, c'est le graphique en haut. Donc, en abscisse, l'axe des X, donc en A0, on est au centre de l'étoile, et tout à droite, on a la surface de l'étoile. Quand le Soleil est né, on avait la même composition au centre de l'étoile et à la surface, à peu près 95% d'hydrogène et 5% d'hélium. Le Soleil, il est en train de transformer de l'hydrogène en hélium et les réactions nucléaires, elles ont lieu là où la pression et la température sont élevées, donc au centre. Donc au centre de l'étoile, on transforme de l'hydrogène en hélium. Le Soleil fait ça depuis 5 milliards d'années, ça veut dire que dans le centre, il y a de plus en plus d'hélium, maintenant il n'y a quasiment que de l'hélium et très peu d'hydrogène. Mais à la surface, rien n'a changé. C'est clair? Si vous avez compris ça, vous allez tout comprendre après. Dans 5 milliards d'années, tout l'hydrogène dans le centre sera transformé en hélium. À la surface, rien n'aura changé. Maintenant, vous vous rappelez de ce graphique? À votre avis, qu'est-ce qui va se passer? Ouais. Exactement. Exactement. Donc, qu'est-ce qui se passe ? Et on voit bien qu'il y a quelqu'un qui est en première année de prépa de physique. Donc, les réactions nucléaires s'arrêtent, la gravitation l'emporte, l'étoile va se contracter. Il y a même quelqu'un qui m'a fait le signe comme ça. J'ai bien compris, il n'y a pas besoin de parler. Des fois, un geste suffit. Donc, l'étoile se contracte, elle va se réchauffer. Vous pouvez faire l'expérience chez vous. Enfin, pas avec une étoile, mais avec du gaz. Donc, on va commencer à brûler de l'hélium. Parce qu'au centre, maintenant, on n'a plus que de l'hélium. Les étoiles, comme le Soleil, elles n'auront pas assez de gravité pour brûler le carbone qui est le produit de la fusion de l'hélium. Donc on va s'arrêter là. Mais les étoiles plus massives, elles auront plus de gravité, elles vont pouvoir aller plus loin. Donc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est qu'on va fusionner des atomes de plus en plus lourds. On va créer des atomes de plus en plus lourds. Donc là, visiblement, il y a un Larsen ici. Il y a Jean-Michel Larsen qui s'est introduit. Donc, quand tu touches le micro, ça fait du bruit aussi. Je fais des tests. Donc l'hélium, là, par exemple, j'ai pris une étoile qui fait 20 fois la masse du Soleil. L'hydrogène, ça brûle à 40 millions de degrés, à Kelvin. Ça ne change plus beaucoup quand on est à 40 millions, de toute façon. Et le silicium, à 2,7 milliards. Et donc les réactions, elles vont être de plus en plus rapides aussi. Donc on va brûler d'abord de l'hydrogène, puis de l'hélium, puis du carbone, du néon, de l'oxygène, du silicium. Pour une étoile qui fait à peu près 20 fois la masse du Soleil, l'hydrogène, ça va durer 7 millions d'années. Le silicium, un jour. Et du coup, on va se retrouver avec une étoile en structure d'oignon. Donc les atomes les plus légers seront en haut et les plus lourds seront dans le cœur. Alors je vous ai menti tout à l'heure en disant que c'était le seul graphique que je vous avais montré, il y en avait deux. Mais cette fois-ci, je vous jure, c'est le dernier. C'est pour vous montrer comment ça marche les réactions nucléaires. Donc il y en a deux types. Tout à l'heure, tu as parlé très bien de fusion nucléaire. Donc la fusion nucléaire, on prend des petits atomes, ils fusionnent, ça porte bien son nom. Ça crée de l'énergie, c'est une source d'énergie, c'est ce qu'on essaye de faire à Cadarache. Je peux dire du mal de France Inter ? En fait, j'ai écouté une émission sur France Inter il y a un mois où il disait qu'à Cadarache, il faisait un nouveau soleil. Donc ça allait faire de la photosynthèse et tout. Alors qu'en fait, on essayait juste de créer une source d'énergie. J'étais là, waouh, je sais comment on a laissé passer ça. Donc on est en train de créer un nouveau soleil. Il y aura un nouveau soleil à Cadarache. Tu seras content, toi qui ne vis pas très loin. Il va être encore plus beau dans le sud de la France. Donc c'est pas ça, on n'est pas en train de faire un soleil, mais on fait un réacteur nucléaire qui va créer de l'énergie. Est-ce qu'on est capable de... On espère qu'un jour ça marchera. Par contre, ce qui est aujourd'hui dans les centrales nucléaires en France, c'est de la fission. Donc on prend des gros atomes, on les casse, ça forme des plus petits atomes et ça crée de l'énergie. Et si vous regardez cette courbe, vous allez voir qu'au niveau du fer, il y a un truc qui se passe. Il y a un coude. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire que la fusion... du fer, pour faire la fusion du fer, il faut plus d'énergie que ça en rapporte. Donc la fusion du fer, elle ne pourra pas avoir lieu avec la gravitation. Donc quand on va arriver à la fusion du fer, tout va s'arrêter. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver ? Bon, je vous le dis. À votre avis, qu'est-ce qui va arriver ? Sachant que tout est écrit. Donc la fusion va s'arrêter, la gravité l'emporte. Vous vous rappelez, c'est la vie d'une étoile, c'est un combat entre les deux forces. La gravité l'emporte sur les réactions nucléaires. Le cœur de l'étoile s'effondre en une seconde. Je ne sais pas si vous imaginez, l'étoile, elle a vécu des millions d'années, en une seconde, elle s'effondre. Toute la matière, elle va rebondir dans le centre, ça va former ce qu'on appelle une étoile à neutrons, et la matière va être éjectée. Souvent, on parle d'explosion de supernova. Dans ce cas-là, c'est une implosion. Il y a d'autres façons de faire des supernovas, d'autres façons de faire des atomes, on en parlera à la fin aussi. C'est comme ça qu'on forme une bonne partie des éléments lourds. Je vous montrerai tout à l'heure qu'il y a d'autres façons de le faire. Bon, depuis le début, je vous parle de millions, de milliards, c'est difficile. C'est difficile à imaginer des millions, des milliards d'années. Même à Cannes, il n'y a personne qui a vécu si vieux. Il n'y a personne de Cannes dans la salle. C'était gratuit. Imaginons qu'une étoile vive 24 heures. Si une étoile vivait 24 heures, elle passerait 22h24 à faire la fusion de l'hydrogène. 1h35 et 53 secondes à faire la fusion de l'hélium. Donc il est quasiment minuit. On a fait deux réactions nucléaires. Donc tout va aller de plus en plus vite. Le carbone, ça va durer 6 secondes 99, le néon 6 millisecondes, enfin vous voyez l'histoire, tout va de plus en plus vite, et le silicium 0,03 millisecondes. Donc vraiment, les réactions s'emballent, et là, on arrive à la supernova. Ça peut donner notamment la nébuleuse du crabe. J'adore parler de cette histoire, c'est même un sujet d'examen, je pense que c'est l'examen que je vous donnerai à la fin d'ailleurs. prenez des notes. C'est une histoire assez intéressante. En 1054, notamment en Chine, il a été relaté l'apparition d'une nouvelle étoile. Donc à l'époque, on pensait qu'il y avait deux mondes, il y avait en deçà de la Lune, rien, les choses bougeaient, et au-delà de la Lune, rien ne bougeait. Là, on voit une nouvelle étoile, c'est bizarre, qu'est-ce que ça peut être? Et quelques années après, enfin quelques siècles après, il y a un Britannique qui découvre une nébuleuse qu'il appelle la nébuleuse du crabe. Ça ne ressemblait pas exactement à ça, mais il avait quand même beaucoup d'imagination. Et ce qui est intéressant, c'est que ben, quand on regarde la nébuleuse, on voit que le gaz est en expansion. Est-ce qu'il y a déjà quelqu'un qui a observé ça au télescope? Non, je pose des questions. Ouais. Même pas toi. Ce qui est intéressant, c'est qu'on peut voir la nébuleuse en expansion. Et imaginez, vous roulez à 100 km/h, vous avez 200 km à faire. Si je vous demande combien de temps ça va prendre. 2 heures, bien. Ben, c'est à peu près la question que je pose à mes étudiants, ils n'arrivent pas à trouver la réponse. Peut-être que ça dit peut-être quelque chose sur leur prof. En fait, ce qu'on a là, c'est qu'on a le gaz en expansion, on connaît la vitesse d'expansion du gaz, et on connaît la taille de la nébuleuse. Donc je leur demande depuis quand le gaz en expansion, sachant que ça a explosé en 1054. Ils pourraient aussi faire une soustraction. Mais je m'arrange pour que ça ne marche pas, que ce ne soit pas trop simple. En fait, le problème qu'il y a, c'est qu'à chaque fois, ils prennent le diamètre de la nébuleuse comme distance, alors que le gaz, il est parti du centre. Donc souvent, il y a un facteur 2. Et ce qui est intéressant, c'est qu'aujourd'hui, on est capable d'observer ce qui a été observé en 1054. D'ailleurs, c'est intéressant, en 1054, il y a eu très peu... j'en ai pas trouvé, je ne sais pas si tu en as vu, toi, Daniel, des traces d'observation en Europe de cette supernova qu'on a appelée la supernova du crabe. En 1054, j'ai regardé un petit peu ce qui se passait en Europe. Je pense qu'on est en train de casser la gueule aux Anglais. C'était avant l'invention du rugby. Donc, à l'époque, c'est ce qu'on faisait, on faisait la guerre avec les Anglais. Et aujourd'hui, on est capable de voir ça. Donc, on voit le gaz en expansion, on est même capable, en rayon X, de voir l'étoile à neutrons qui tourne sur elle-même plusieurs fois par seconde et qui crée ce vent d'un pulsar. C'est assez extraordinaire. J'aime bien qu'on arrive à lier l'histoire, les histoires, avec ce qu'on fait aujourd'hui. Donc, si vous vous rappelez, je vous l'ai déjà montré, celui-là. Donc, dans le milieu interstellaire, on a formé, après le Big Bang, de l'hydrogène et de l'hélium. Des étoiles massives, elles ont formé principalement de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium. Tout ça, ben, ça va repartir dans le milieu interstellaire. Donc, les étoiles massives, elles vivent moins longtemps, donc c'est les premières étoiles à mourir. Donc, on aura une nouvelle génération d'étoiles qui va se former. Cette fois-ci, il n'y aura pas que de l'hydrogène et de l'hélium. Il y aura aussi de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium. Vous êtes prêts pour continuer? Quel côté on va aller maintenant, voir s'il y a des gens qui suivent? Ah, ouais. Je vois à droite, mais je sais que vous voulez dire à gauche, du coup. Donc, les étoiles comme le Soleil, elles ne vont pas pouvoir faire la fusion du carbone parce qu'elles n'ont pas assez de masse. Elles vont devenir des géantes rouges, c'est des étoiles AGB. C'est quelque chose que j'étudie depuis presque 25 ans maintenant. Cette image, d'ailleurs, c'est une image assez intéressante. C'est une image qu'on a fait avec des collègues avec un télescope qui s'appelle ALMA. On a un télescope où on est capable de faire des images. L'effet Doppler, vous connaissez? Donc, je n'ai pas besoin de faire l'ambulance. Donc, si vous êtes au volant d'une voiture, vous savez si l'ambulance se rapproche ou si elle s'éloigne. C'est bon? Exactement. Donc, si la lumière se décale vers le bleu, c'est que la matière se rapproche de nous. Si elle se décale vers le rouge, elle s'éloigne. Voilà, on est capable de faire des images à différentes couleurs et voir la matière qui s'éloigne et la matière qui se rapproche. Donc là, en bleu, on a ce qui vient vers nous et en rouge, ce qui s'éloigne. Donc on est vraiment capable d'observer l'éjection de gaz. C'est quelque chose d'assez extraordinaire. Et ces étoiles, c'est la principale source de carbone dans l'univers parce que justement, elles ne fusionnent pas le carbone, donc elles le produisent, mais elles ne le détruisent pas. Et c'est aussi la principale source de poussière dans l'univers. Et ça, pour moi, c'est un point important, parce que Hubert, que quelqu'un que j'adorais, qui m'a vraiment donné envie de faire de l'astronomie, il a appelé son livre « Poussière d'étoiles », mais ce n'était pas vraiment un spécialiste de poussière d'étoiles, et quelque part, il m'a donné envie d'étudier la poussière d'étoiles. Et on a passé pas mal de temps à discuter du coup de la poussière d'étoiles, parce que c'était quelqu'un de très curieux. Et moi, la question que je me pose depuis très longtemps, c'est comment on va éjecter les atomes qui ont été créés par l'étoile. Donc là, je vous ai montré comment on les créait. Et vous vous rappelez que les réactions nucléaires, ils ont lieu dans le cœur de l'étoile. Ça, c'est un diagramme que j'ai montré pour la première fois pour ma soutenance de thèse en 2005. Je crois que je l'ai montré à chaque fois que j'ai parlé en public depuis. Donc j'ai arrêté de compter combien de fois que je l'ai montré. Ce qu'on voit à gauche, c'est une coupe d'une étoile dite AGB, donc c'est des géantes rouges de deuxième génération. Donc c'est le Soleil dans 6 milliards d'années. À gauche, c'est une coupe en fonction de la masse. À droite, c'est une coupe en fonction du rayon. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'on a un cœur de carbone et d'oxygène qui fait à peu près la moitié de la masse de l'étoile. C'est bon ? J'attends que tout le monde fasse... Pour ceux qui dorment, tant pis. Et de l'autre côté, c'est une coupe en fonction du rayon, ça veut dire que ce cœur qui fait la moitié de la masse, il est tout petit. Donc la question qu'on se pose, c'est comment, pour faire partir ces atomes, il va déjà falloir les faire remonter à la surface, c'est la première étape, puis les faire partir. Pour les faire remonter, il y a un truc assez pratique qui s'appelle la convection. Est-ce qu'il y a des gens qui étaient étudiants ici ? Donc la convection, vous prenez une casserole, vous mettez de l'eau pour faire des pâtes, la convection c'est les bulles qui montent et qui redescendent. Sauf que là, c'est des cellules de convection qui sont quasiment la taille du soleil, donc il faut une grosse casserole. Cette convection, ça va faire remonter à la surface, pas les pâtes, mais les nouveaux atomes. C'est bon ? Et ça va être intéressant aussi, donc cette convection, elle est aussi liée à la pulsation, parce que l'étoile, elle pulse. Et c'est à ça que ressemble une étoile en fin de vie. Le soleil, dans à peu près 5 milliards d'années, ça devrait ressembler à ça. Dans 5 milliards d'années, je ne me mouille pas, on aura peut-être un premier ministre d'ici là. Ça sera peut-être Michel Drucker qui l'annoncera d'ailleurs. Donc là, le soleil, enfin, en fin de vie, la convection et la pulsation, ça va éloigner le gaz de l'étoile. Par endroits, ça va créer ce qu'on appelle une onde de choc. Ce qu'on peut voir, là, il y en a une qui va partir en bas à gauche. L'onde de choc, qu'est-ce qui va se passer ? C'est que le gaz va être plus loin de l'étoile. On a l'impression que je refais le chasse-neige, mais c'est juste qu'un seul mime. Donc le gaz va être éloigné de l'étoile, il va être plus froid, c'est clair. Et l'onde de choc, ça va créer une surdensité. Donc on aura du gaz qui va être froid et dense. Si vous avez un petit peu de sens de la thermodynamique ou juste de la physique en général, qu'est-ce qui va arriver au gaz qui est froid et dense, à votre avis ? Sachant qu'on va essayer de former de la poussière d'étoile. Indice. Bon, comme tout le monde le dit, il va se solidifier. Bonne réponse, merci. Donc le gaz se solidifie, c'est comme ça qu'on forme la poussière d'étoile. Et ça va être hyper important. Pourquoi ça va être hyper important ? Bah déjà, parce qu'on a appris comment former la poussière d'étoile. Et vous rappelez, tout à l'heure, je vous montrais ces simulations de formation de planètes, de disques, choses comme ça. Moi, ça fait presque 25 ans que j'étudie ça, et depuis 25 ans, je dis, les modèles d'étoiles ne sont pas capables de former de la poussière. Là, je vous l'annonce en avant-première, ça va être dit pour la première fois à Paris, si tu noteras la date. Nos modèles, avec nos collègues en Suède, on est capable de le faire aujourd'hui. Pour la première fois, on fait de la physique d'une étoile, on fait évoluer une étoile, elle va pulser, elle va avoir de la convection, et on forme de la poussière. Donc, en plus, ça colle aux observations. Donc, on fait quelque chose qui marche, et ça colle aux observations. Et c'est cool, et pourquoi cette poussière est importante ? Parce que la poussière, elle va absorber le rayonnement de l'étoile. Ce n'est pas un dessin que j'ai fait, parce que je n'ai pas ce talent. Imaginez, il y a le rayonnement de l'étoile et il y a la poussière qui est là. Vous allez voir que je suis super fort en mime. Les grains de lumière, les photons, vont interagir avec la poussière et ça va la faire partir. Donc chaque fois qu'il y a un grain de lumière qui va toucher la poussière, je vais le faire près du micro, vous entendrez en plus. Non, je sais pas. Ça va faire partir la poussière et c'est ça qui va faire éjecter la matière. Donc on a créé les atomes par réaction nucléaire, on les fait remonter à la surface avec la convection. La formation de poussière, les grains de poussière vont prendre de l'impulsion, c'est ça qui va faire partir. Et la poussière va entraîner le gaz avec elle par friction. Première raison pourquoi la poussière c'est importante, sans poussière d'étoile, les éléments créés dans ces étoiles comme le Soleil, c'est comme 95% des étoiles, ils resteraient dans le centre. Donc cette poussière, c'est ça qui va faire partir la matière. La poussière, elle est super importante aussi, parce que dans le milieu interstellaire, imaginez, vous prenez 1 cm cube de milieu interstellaire, en moyenne, il y aura un atome. Donc la probabilité que deux atomes se rencontrent est faible. Et j'aime bien dire que la poussière, c'est un peu le Tinder du milieu interstellaire, c'est ce qui permet aux atomes de se rencontrer. Pour ceux qui ne connaissent pas Tinder, je vous laisse chercher sur Google. Peut-être que vous passerez une bonne soirée. Donc cette poussière, elle permet d'enrichir la galaxie en atomes nouveaux, et donc en poussière. Donc on va enfin former des planètes. Là, j'ai aussi envie de vous montrer des belles images, parce que c'est quand même deux des plus belles images pour moi du James Webb, le télescope qui a été envoyé il y a quelques années maintenant. C'est des images sur lesquelles j'ai eu la chance de travailler un petit peu, d'ailleurs. Je peux même vous annoncer qu'il y a une troisième qui va sortir d'ici une semaine, qui est pas mal aussi. Et là, ce qu'on voit, c'est l'avenir du Soleil dans 5, 6, 7 milliards d'années. Si je me trompe, vous revenez, je vous paye un coup. Mais ce qu'on voit là, donc, c'est la phase d'après. L'étoile va se contracter, elle va commencer vraiment à rayonner très fort. L'enveloppe va partir très vite et ça va créer... L'étoile va exciter le gaz et la poussière autour, et ça va créer des molécules ou des atomes excités qui vont donner toutes ces belles couleurs. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que quand on a observé ces étoiles, on pensait qu'il y avait une seule étoile qui mourait. À droite, on s'est rendu compte qu'en fait, il y en avait quatre, et à gauche, il y en a trois. Donc on se rend compte que la mort des étoiles, c'est un petit peu compliqué. J'ai l'impression que chaque fois qu'on pointe le James Webb sur ces trucs, on trouve qu'il y a plein d'étoiles. Attends, je vais finir le verre parce qu'il y a une bonne raison. En fait, le problème qu'il y a quand on observe le ciel, ça, je vais prendre le public en... Imagine, c'est une étoile. Oups, j'ai pas complètement fini le verre. Donc, l'étoile, elle est là pour grande pour toi que pour toi au fond. Je sais que tu es occupé à filmer, mais tu dis OK. Alors, le problème, si on veut connaître la vraie dimension d'une étoile, qu'est-ce qu'il faut connaître ? Sa distance. Et ça, c'est quelque chose d'assez compliqué à faire. Et j'ai un collègue australien qui a réussi à mettre au point une technique pour mesurer la distance dans ces objets en fin de vie qu'on appelle des nébuleuses planétaires. Et du coup, en prenant plusieurs, on peut faire plus ou moins le film de ce qui va se passer au Soleil, pour le Soleil, dans plus de 5 milliards d'années. Je trouve ça assez cool. C'est qu'on va voir la nébuleuse qui est toute compacte et qui va devenir de plus en plus grande et qui va venir se mettre dans le milieu interstellaire. Donc, encore une fois, si vous êtes là dans, on va dire, 7 milliards d'années, je pense que ça sera assez joli. Mais je crois qu'il y a un climatologue dans la pièce qui me dira qu'il y a peu de chances qu'il y ait encore des humains dans 7 milliards d'années, avec toutes les conneries qu'on est en train de faire. Ça faisait longtemps que je n'avais pas passé de message. Donc la vie des étoiles, vous vous rappelez, on nous a montré à gauche, on a formé avec les étoiles massives de l'oxygène, du fer, du magnésium, du silicium. Les étoiles massives ont formé aussi de l'oxygène, du carbone, essentiel à la vie, du fluor. En vous brossant les dents ce soir, vous pourrez dire que ça vient de poussière d'étoiles, vous saurez que ça vient d'une étoile de faible masse en fin de vie, l'aluminium. Et tout ça, ça va repartir dans le milieu interstellaire, le milieu entre les étoiles. Donc ce qui est cool maintenant, on a tout ce qu'il faut pour former des planètes et la vie, on a tous les atomes. Donc on est parti, on avait l'hydrogène et l'hélium, grâce aux étoiles on a formé tout ce qu'on voulait. On est même plus ou moins capable, je sais qu'il y a encore des débats entre les différentes équipes, on ne va pas rentrer dans les détails, on est capable de connaître l'origine cosmique de quasiment tous les éléments. Prenez un élément du tableau de Mendeleïev. Tout le monde le connaît, le tableau de Mendeleïev. Est-ce que quelqu'un l'a au-dessus de son lit? Oui. C'est la première fois que j'ai une réponse positive, j'en ai deux en plus. Ben, vous pouvez mettre celui-là, parce que je pense qu'il est encore plus impressionnant, c'est qu'on est capable de comprendre l'origine cosmique de chaque élément. Là, je vous ai fait une méthode, la manière simple, c'est que je vous ai parlé, s'il y avait une seule étoile, il faut savoir que la majorité des étoiles sont en couple, et que ça va avoir une influence aussi sur la vie des étoiles et sur leur mort. Donc les étoiles dites binaires, qui sont à 2 ou 3 ou 4, ça va aussi former d'autres éléments. Donc on connaît l'origine de tous les éléments. Donc il y a 4,5 milliards d'années à peu près, je pense que vous avez déjà vu cette vidéo, on va avoir un grand nuage de gaz qui va s'effondrer. Au centre, on a une étoile qui va se former, qui s'appelle celle qui n'était pas en Bretagne avant 1980, vous rappelez. Donc le Soleil. J'ai appris le mot quand je suis arrivé à Nice. Et autour, on va avoir 8 planètes qui se formeront. Je regarde les personnes avec les cheveux gris qui vont me dire peut-être qu'il y en avait 9 quand ils étaient à l'école. Si vous ne savez pas quelle question poser à la fin, vous pourrez la poser, on sera au moins 2 à avoir la réponse. Donc on va avoir un disque. On va avoir du gaz, de la poussière, des planètes qui vont se former. Parmi ces planètes, il y en a une qui va s'appeler la Terre. Donc qu'est-ce qui se passe? On a une sorte de caillou qui va rentrer en collision avec des cailloux cosmiques. À chaque fois qu'il y a un impact, ça va redonner de l'énergie. C'est très chaud, donc les éléments les plus lourds vont partir vers le cœur. C'est pour ça qu'on a un cœur qui est fait de fer qui tourne. C'est l'effet de la boussole, hein, c'est... Ça monte le nord, sauf certains politiciens qui sont des boussoles qui indiquent le sud, mais en général, la boussole indique le nord dans l'hémisphère nord. C'est dû à la rotation de ce cœur de fer. Donc chaque fois qu'il y a un impact, la Terre se réchauffe. Est-ce qu'il ne manque pas quelque chose, là ? La Lune. Pas mal. Vous l'avez déjà vu, la conférence ? Donc qu'est-ce qui va se passer ? En fait, il y a quelque chose qui fait à peu près la taille de Mars, qui s'appelle Theia, qui très rapidement, après la formation de la Terre, va rentrer en collision avec notre planète. Vous êtes prêts? Vraiment? Ça se voit que je meuble, ça va arriver. Voilà, Theia qui arrive. Elle va rentrer en collision. Il y a la matière une partie de la matière de Theia, une partie de la matière de la Terre qui va se mélanger, ça va former un disque autour. Et ce disque va former la Lune. Donc on a la Terre, on a la Lune, on est pas mal. Est-ce qu'il ne manque pas autre chose? Il manque plein de trucs. Hein. Enfin, il y a des choses qui ne manquent pas non plus. Mais... Je veux dire, des choses dont on se passerait bien. Mais... L'eau. Donc on a les volcans qui vont créer une atmosphère assez complexe, il va pleuvoir. Ça va faire des océans. Et le CO2 qui va se mettre dedans aussi. Si vous avez des questions sur le climat, il y a un auteur principal du GIEC qui est là, donc je le laisserai répondre. C'est évidemment bien simplifié. Donc voilà, on a tout ce qu'il faut sur Terre. On continue un petit peu. Assez rapidement, 600 millions d'années après la formation de la Terre, la vie apparaît. Donc c'est sous la forme de cellules, de bactéries. Ça va assez vite. Il y a un truc qui va être important. Vous vous rappelez que la question qu'on s'est posée au départ, c'est d'où venait la diversité sur Terre. Un des trucs importants, c'est une discussion que j'avais avec Alessandro Morbidelli, je ne sais pas si vous connaissez, qui est professeur au Collège de France. Je ne sais pas si vous connaissez le Collège de France. Je l'ai vu lundi, je lui ai dit, t'as pas eu ta rentrée. Non, c'est pas le même collège, moi, en fait. C'est la rentrée des plus tard. Qui travaille avec moi, qui est un peu spécialiste de l'apparition de la vie sur Terre, enfin, de la formation du système solaire en général. Enfin, il est spécialiste de plein de choses, en fait. Je ne sais pas s'il écoute, mais chaque fois que je dis du bien de lui, ça me rapporte des projets de recherche, donc je suis obligé de le dire, du coup. Donc, ce qui se passe, on va voir la dérive des continents qui va être hyper importante. Déjà, c'est intéressant, j'aime bien cette vidéo. Vous allez voir, par exemple, l'Inde qui va rentrer en collision avec l'Asie. Ça va créer quoi ? L'Himalaya, ouais. Donc on a vraiment les continents qui bougent. Évidemment, ça ne bouge pas très vite. Mais le fait que ça bouge, ça veut dire que chaque endroit sur Terre a été dans différentes conditions à un moment précis. Et ça, ça aura une importance vraiment très grande pour la diversité. Parce que la sélection naturelle va expliquer que les espèces les plus adaptées à leur milieu ont plus de chances de se reproduire. Là, vous voyez, il y a des lapins, il y a des prédateurs. Si je vous demande quel lapin vont se faire bouffer en premier, je pense que c'est assez évident. Donc ça, c'est Darwin qui a montré ça. Souvent, les gens comprennent mal Darwin, ils vont dire que les choses vont évoluer. Genre, on descend du singe, on s'est transformé. Non, il y a des choses qui se passent de manière aléatoire. Et ceux qui ont, enfin, la mutation génétique qui va apporter quelque chose qui nous permet de survivre plus que les autres, va faire que c'est cette espèce qui va se reproduire. Si c'est pas clair, j'aime bien expliquer à ma nièce, en fait, c'est que les poissons qui savaient pas nager sont morts noyés. C'est la sélection naturelle expliquée aux enfants. Si vous savez pas le faire, vous avez un truc maintenant. Et là, on en vient à la question qu'il faudra poser à la fin quand on aura coupé le micro, pourquoi j'ai fait cette conférence comme ça. Donc à un moment, il y a l'être humain qui apparaît en Afrique. À partir de là, c'est complexe, les migrations, j'ai lu pas mal de choses là-dessus, évidemment, c'est pas juste, les gens, ils partent, et puis ils partent en randonnée, et puis ils partent tous dans un sens, ça se fait petit à petit, mais ça se fait assez rapidement quand même. Petit à petit, l'être humain va peupler un petit peu toute la Terre. Donc on va aller vers le croissant fertile, au nord de l'Inde, un petit cours de géographie. L'une des premières migrations vers l'Australie aussi, parce qu'à l'époque, on pouvait traverser. Donc les aborigènes arrivent assez rapidement en Australie. Il y a d'autres migrations qui vont commencer. Là, on va suivre la vallée du Nil, aller vers vraiment là où il y a les premières traces de civilisation humaine aussi, de civilisation très avancée. Une migration hyper intéressante, c'est la migration vers le Pacifique. Toutes les îles du Pacifique qui sont peuplées. Après, toute l'Asie du Sud-Est et du Nord-Est. Une migration qui va nous intéresser aussi, c'est celle qui va amener vers l'Europe. Donc petit à petit, on arrive vers l'Europe. Il ne manque pas un continent, là ? Ceux qui ont eu un président orange. C'est pas un continent, je sais, c'est un pays, mais ils confondent, ils sont pas très bons en géographie en général. Donc vous savez par où ils sont passés pour aller en Amérique. Donc par le détroit de Bering, ça va peupler d'abord l'Alaska, puis petit à petit aller vers l'Amérique du Sud. Donc tout ça, c'était pour dire qu'en fait, c'est un petit message aussi, que si vous n'étiez pas né en Afrique, vous étiez forcément un descendant de migrants. C'était un message qui passe, j'espère, mieux à Paris que dans les Alpes-Maritimes. Mais il y a peut-être une indication sur la question à poser et pourquoi j'ai fait cette conférence comme ça. Alors, un petit rappel sur la chronologie de l'univers. Le Big Bang, il y a à peu près 13,8 milliards d'années. Il y a 12, 13... Avec le James Webb, on a observé des choses il y a 13,4, 13,5 milliards d'années maintenant, la formation des premières galaxies. D'ailleurs, il y a pas mal de gens qui disent que le James Webb est en train de remettre tout ça en cause, mais ce n'est pas le cas. Avec le James Webb, on a observé des galaxies très brillantes dans l'infrarouge et les gens pensaient qu'elles sont trop grandes, plus grandes que ce qu'on pensait d'après nos modèles. Mais les dernières observations semblent indiquer que ce qui se passe, c'est qu'il y a de la poussière autour des trous noirs au centre et que s'ils sont brillants dans l'infrarouge, c'est parce que cette poussière émet dans l'infrarouge. Donc le Big Bang marche encore a priori. Je parle sous contrôle d'experts, mais je pense que c'est bon. Donc la Terre se forme il y a 4,6 milliards d'années. Il y a 4 milliards d'années, la vie apparaît sur Terre. Donc vous voyez, ça va assez vite. Par contre, pour la vie multicellulaire, c'était il y a seulement 600 millions d'années. Donc ça a pris vraiment du temps pour avoir de la vie complexe. Et l'être humain, on vient d'arriver en fait. Mais encore une fois, là, je vous parle de milliards d'années. Donc on va reprendre le calendrier cosmique de Carl Sagan. Je pense que c'est intéressant de voir si l'univers avait un an. 1er janvier, c'est le Big Bang. Si quelqu'un cherche une explication sans mal de tête, ouais, c'est rien, c'est le Big Bang. Début février, on forme les galaxies et la Voie lactée. Donc ça va vraiment assez vite pour former les galaxies. Il faut quand même attendre la mi-août. Je suis venu à Paris, mi-août, on ne fait pas grand-chose. Hein. Mais à mi-août, dans l'univers, on forme le système solaire, c'est pas mal. Dès début septembre, la vie apparaît. Donc la vie apparaît vraiment très très vite. Par contre, l'explosion cambrienne, vraiment la vie complexe, ça apparaît mi-décembre. La vie complexe, c'est quelque chose, à l'échelle cosmique, c'était hier. Les premiers hominidés, ils débarquent le soir du 31 décembre. La civilisation humaine, elle commence le 31 décembre, 30 secondes avant minuit. Les mecs débarquent avec leur verre de champagne, coucou, c'est moi. Je ne sais pas si vous imaginez, mais à l'échelle cosmique, on vient juste d'arriver. Et on a foutu un sacré bordel. Je parle sous contrôle de l'auteur principal du GIEC. T'es d'accord que ça fait pas longtemps, on a déjà foutu un sacré bordel. Là, je vous ai montré notre place dans le temps. Et je pense que c'est important de rappeler que l'astronomie, ça doit apporter un petit peu d'humilité aussi. Maintenant, voyons notre place dans l'univers. J'aime bien imaginer un facteur cosmique. Je pense qu'on est tous partis en vacances, on a écrit une carte postale à notre grand-mère, puis on a souligné France, parce qu'on était à l'étranger, pour bien montrer, pour être sûr que ça allait arriver. C'est pas assez précis. Imaginons un facteur cosmique, déjà, il faut lui dire, ouais, tiens, grand-mère, 6-1, Bretagne, France, on souligne. Mais France, c'est en Europe, c'est sur la Terre. Jusque-là, c'est bon. Je simplifie encore un petit peu aussi. Sur la Terre, c'est l'une des 8 planètes du système solaire. Le système solaire, c'est une étoile, le Soleil, avec 8 planètes autour. C'est une étoile comme les autres parmi les étoiles du voisinage du système solaire. Le voisinage du système solaire, c'est juste un tout petit morceau de la Voie lactée qui en contient 200 milliards. Mais la Voie lactée, c'est l'une des 80 et quelques galaxies du groupe local. Donc il y a la Voie lactée, Andromède, qui est notre voisine à 2,5 millions d'années-lumière, qui va venir nous rendre visite en 3 milliards d'années. J'aime beaucoup me dire que cette galaxie, elle a 2,5 millions d'années-lumière. S'il y a des astronomes là-bas qui ont fait un super grand télescope, ils sont capables de voir la civilisation humaine qui commence. Par contre, ils ne peuvent pas nous dire « attention, vous avez foutu de la merde ». Ils seraient capables de le voir. Le groupe local de galaxies, c'est qu'un tout petit morceau du superamas de la Vierge. Le superamas de la Vierge, c'est qu'un tout petit morceau du superamas locaux. J'aime bien dire avec Guillaume, c'est local, consommé, bio, enfin c'est circuit court, on est encore dans le local. Là. Les superamas locaux, c'est qu'un tout petit morceau de l'univers observable qui fait quand même 93 milliards d'années-lumière de diamètre. Donc je vous ai montré notre place dans l'espace, dans le temps, et je pense que la seule conclusion qu'on peut avoir à cette conférence, c'est de dire que notre Terre, c'est la seule connue avec de la vie intelligente, enfin pas complètement intelligente, il y a encore des platistes, j'espère qu'il n'y en a pas dans la salle. C'est aussi la seule planète avec les crêpes de ma mère et de la bière, et je pense qu'il faut prendre soin d'elle. Merci beaucoup. Et j'en profite aussi pour dire que je fais de la pub pour mon livre, et puis il y a un humoriste qui travaille plus beaucoup avec qui je fais des spectacles en moment, donc il faut penser à lui en fait. Il est très content d'entrer dans un lieu du service public parce que ça lui arrive plus beaucoup.
Eh ben merci pour ce voyage à travers l'évolution cosmique. Donc on va donner la parole à la salle, dans la salle réellement et puis virtuellement avec ceux qui nous suivent en direct. Avant de prendre une question dans la salle, je vais te transmettre une question qu'il y a sur le chat de YouTube.
Tu m'as dit que tu ne passais pas les insultes qu'il y avait sur YouTube. Hein.
Tu vas voir les questions que je te pose, mais il y a des questions plutôt bienveillantes, des commentaires bienveillants, des remerciements. On est content de lire des remerciements, ça fait plaisir, merci pour ces remerciements. Alors une des questions, c'est au début tu as parlé de l'expansion de l'univers, et donc il y a une question qui est la force de gravité s'oppose à l'idée d'expansion. N'y a-t-il pas une contradiction? Est-ce que tu peux donner des éléments de réponse?
En fait, ce qui est intéressant, c'est l'expansion de l'univers, c'est quelque chose à grande échelle. Enfin, si vous dites, vous revenez après le réveillon en disant « ouais, j'ai grossi, c'est l'expansion de l'univers », non, ça ne marche pas localement. J'ai déjà essayé. Moi, localement, la gravitation l'emporte. Si vous regardez sur Terre, la Terre n'est pas en expansion. Donc la force de gravité, elle est plus forte que l'expansion quand il y a beaucoup de matière. Mais si on regarde vraiment à grande échelle, on voit déjà toutes les galaxies ne s'éloignent pas de nous. Si vous regardez Andromède, elle va se rapprocher. Mais si on regarde beaucoup de galaxies, on va voir qu'elles s'éloignent quasiment toutes de nous. Donc il n'y a pas de contradiction. La gravitation peut être plus forte localement.
Merci. Alors maintenant, une question dans la salle. Y a-t-il une question, un commentaire?
Si vous n'avez pas de questions, je vous en ai donné deux ou trois, en fait. Mais par contre, il faudra peut-être couper la caméra pour une.
Non, mais sinon, j'en prends d'autres sur Internet. Non, dans la salle, il n'y en a toujours pas. Si, il y en a une là.
Je vais prendre des questions intéressantes d'abord.
Ma question est se porter surtout en ce qui concerne les trous noirs. Les trous noirs, en fait, ils sont en quelque sorte la force de contradiction par rapport à l'expansion de l'univers, non ?
C'est pas une contradiction, mais je peux dire une anecdote ?
Oui.
J'ai eu une question hyper compliquée sur les trous noirs par un humoriste il y a quelques temps. Première fois que je l'ai rencontré, il m'a demandé si tu rentres dans un trou noir, est-ce que tu peux retrouver la dignité de Manuel Valls ? J'ai fait attends. L'astrophysique est capable de répondre à des questions hyper complexes, mais ça a des limites. Mais quelques temps après, je lui ai dit, en fait, un trou noir, quand tu rentres dedans, tu ne peux plus ressortir. C'est un peu l'inverse de la prison de la santé pour les Balkany. Donc ça, c'est pour expliquer un peu le trou noir. Je ne sais pas s'il y a des amis des Balkany. On n'est pas dans 92, mais c'était juste pour vulgariser. Mais sinon, le trou noir, ce qui est intéressant, c'est que c'est un... déjà, il y a l'histoire de la découverte des trous noirs. Donc j'ai un verre vide. Ça, c'est Newton qui fait une expérience de pensée. Il est sous un pommier, il y a une pomme qui tombe. On dit déjà, heureusement que ce n'est pas un cocotier, sinon il n'y aurait pas eu de la gravitation universelle. Ça aurait été une grosse sieste. En fait, la pomme tombe. Je suis sûr qu'il n'a pas vu de pomme tomber. Hein. Mais pourquoi la pomme tombe et la lune ne tombe pas ? Donc il fait une expérience de pensée. Si je lâche ce verre, qu'est-ce qui va arriver ? Le verre, il tombe. Si je le lance, là, il va y avoir des frottements. Mais en gros, si je lance, il va plus ou moins faire une parabole. Et si je le lance super fort, il va faire une parabole qui va être plus grande que la courbure de la Terre, parce qu'on est d'accord que la Terre est courbe, qu'elle n'est pas plate. Donc, et du coup, ça va partir en orbite. Si on lance aussi un truc très fort, on va pouvoir s'échapper à la gravitation de la Terre. Donc la gravitation, plus la gravitation est forte, plus il va falloir lancer fort pour que ça parte. Donc le point de vue classique du trou noir, c'est que si on a quelque chose, il faudrait que lancer quelque chose à plus de 300 000 km par seconde pour que ça parte, on va avoir un souci parce que les 300 000 km par seconde, c'est la vitesse de la lumière, rien peut aller plus vite que la lumière. Un mec qui s'appelle Einstein, qui a montré finalement que la gravitation, c'était une déformation de l'espace et du temps. Or, vous imaginez, c'est très simplifié, vous avez une nappe comme ça, et vous mettez quelque chose dessus, ça va courber l'espace et le temps. Et du coup, quand on a un trou noir, ça le courbe tellement que ça fait limite, il y a un trou dans l'espace-temps, donc on a ce qu'on appelle une singularité. Pour ceux qui ne connaissent pas, c'est juste pour montrer que le trou noir, c'est un truc, c'est limite presque aussi dense que du Kuhnemann, pour se parler un petit peu de breton encore. Mais ce qui est intéressant, encore une fois, c'est qu'on a ce qu'on appelle une singularité, c'est-à-dire qu'on a deux théories en physique, on a la relativité générale qui explique ce qui se passe à grande échelle, surtout ce qu'il y a avec les grandes masses, les choses qui vont très vite, et la mécanique quantique qui explique ce qui est très petit. Mais au centre d'un trou noir, on a quelque chose qui est très petit et très massif, et on n'est pas capable aujourd'hui. On n'est pas capable d'unifier la mécanique quantique et la relativité générale. Il paraît, j'ai entendu dire, j'ai vu un documentaire qui montrait que si tu rentres dans un trou noir, tu arrives dans une bibliothèque. Mais je ne sais pas. Je ne sais pas si vous avez vu ce documentaire aussi. Mais c'est quelque chose d'intéressant. Mais on est capable aujourd'hui d'observer des trous noirs. Enfin, pour moi, c'est l'une des plus grandes. Je ne sais pas si c'est une découverte. Si c'est une découverte qui date des années 70, donc on observe une source d'ondes radio au centre de la galaxie. Un collègue qui s'appelle Bruce Bailey, qui est américain, il a observé ça, il a pu montrer que c'était quelque chose de très compact. Donc on a deviné que c'était certainement un trou noir. Depuis les années 90, ou peut-être même un poil avant, on regarde les étoiles qui tournent autour de cette source qu'on a appelée Sagittarius A étoile. On voit qu'il y a des étoiles qui tournent très vite, donc il y a une masse très forte autour. Il y a sûrement des gens ici, ou à côté sûr en tout cas, qui ont participé à ces observations, avec un instrument qui s'appelle Gravity notamment. On a pu mesurer précisément le mouvement de ces étoiles et déterminer la masse du trou noir. Et ce qui est super cool, c'est que vous avez tous vu l'image du trou noir au centre de la galaxie. Pour moi, c'était un moment extraordinaire. C'est que tout à l'heure, je rigolais avec le soleil en Bretagne, mais je pense que le soleil, c'est notre première maison. On tourne autour du soleil et tout le monde a déjà vu. Mais on tourne aussi autour du centre de la Voie lactée. Et ça, on n'avait jamais vu avant. Mais non, ça fait quelques années que pour la première fois, on a vu cette image. En soi, c'est extraordinaire. Déjà le challenge technique, j'aime bien dire que, imaginez, j'étais un verre de bière. La conférence de presse a été faite à Munich, j'ai l'impression qu'elle était faite pour moi. Il me disait, imaginez, on essaie d'observer quelque chose de tellement petit, c'est comme s'il y avait quelqu'un avec un verre de bière à Munich et quelqu'un qui observait le verre de bière depuis New York et qui arrivait à faire la photo d'une bulle. Donc pour faire ça, on a fait un télescope de la taille de la Terre, c'était assez incroyable. Donc l'image en soi, c'est incroyable. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que la théorie d'Einstein montre que la taille du trou noir, enfin au moins de l'horizon des événements, dépend de la masse du trou noir. Donc on avait calculé la masse du trou noir en regardant les étoiles tourner autour. En faisant l'image, on a pu voir sa taille et vérifier que la théorie collait. Donc Einstein, qui a fait cette théorie en 1915, à chaque fois s'est vérifié. Et ça marche plutôt bien.
Je crois que la réponse était très claire à votre question.
Je ne sais pas si tu te rappelles de la question, parce que c'est ça, avec moi souvent on me pose une question, les gens ne se rappellent plus, ils ont dit ouais c'était cool.
Y a-t-il une autre question, un autre commentaire?
Sinon j'ai des réponses, hein, s'il n'y a pas de questions.
Le disque qui se forme autour des étoiles, je suppose que c'est en raison de la rotation des étoiles. Mais est-ce que toutes les étoiles tournent et pourquoi?
C'est quasiment la question que j'ai sous-entendue. Donc, je vais vous expliquer comment on forme ce disque. Alors, pourquoi les étoiles tournent? Déjà, il faut savoir que dans l'univers, quasiment tout tourne parce qu'il suffit d'avoir une toute petite perturbation. Ça va faire tourner un tout petit peu s'il y a quelque chose qui passe à côté d'une masse. Ça va donner une toute petite rotation. Est-ce que vous voulez me voir faire sur Yabon Ali? Ça parle aux plus jeunes, je pense. Si je tourne avec les bras comme ça, est-ce que je tourne plus vite que si j'ai les bras comme ça? Je fais bien, j'ai la tête qui tourne. C'est ce qu'on appelle la conservation du moment angulaire. C'est un truc, c'est assez rigolo à faire. Vous prenez une chaise roulante, vous êtes dans votre bureau, vous prenez des choses lourdes, vous tournez, vous resserrez les bras, et les gens vous demandent qu'est-ce que vous faites. Je vérifie la conservation du moment angulaire. La conservation du moment angulaire, ça veut dire que quelque chose qui est très grand, qui tourne, s'il se contracte, va tourner de plus en plus vite. Vous avez des enfants ou des petits-enfants? Amenez-les au manège et faites tourner le manège super vite. Qu'est-ce qui va arriver? Non. Ou des gens que vous n'aimez pas, mais en gros... Si on fait tourner un truc très vite, on a ce qu'on appelle la force centrifuge qui va faire partir dans une direction. Donc une étoile, il y a ce nuage de gaz qui se contracte, qui tourne très lentement au départ, qui va tourner de plus en plus vite, la force centrifuge va faire que dans une direction, la matière va s'étaler. Donc on a les choses qui vont se contracter dans toutes les directions et dans les autres pas. Donc la réponse à votre question, le disque se forme, c'est dû à la rotation qui va de plus en plus vite parce que ça se contracte, la force centrifuge, et quasiment tout tourne. Chaque fois qu'on mesure, ça tourne plus ou moins vite. Ça peut aller de quelques kilomètres par seconde à quelques dizaines de kilomètres par seconde. Il y a même des étoiles qui tournent tellement vite, des étoiles comme le Soleil, sur la séquence principale, à placer en soirée encore, qui sont aplaties tellement elles tournent vite. C'est assez étonnant. On a des étoiles, des collègues qui ont fait des images d'étoiles, elles ressemblent à ça, quoi. Elles sont complètement aplaties à cause de leur rotation. Donc quasiment tout tourne dans l'univers. Mais c'est une question que je me suis longtemps posée. Mais en fait, les collègues théoriciens, ils disent tout tourne. Mais je dis, ouais, mais pourquoi? Mais en fait, il suffit juste d'avoir une petite perturbation et ça marche.
Alors, j'ai une question sur le chat qui est un peu une sorte de défi. Je ne sais pas si tu auras des éléments de réponse là-dessus. La question est la suivante. Serait-il possible que par un jeu de lentilles gravitationnelles bien agencé, on puisse voir notre système solaire dans le passé?
Alors, je ne vois pas comment on pourrait voir nous dans le passé. Ça serait assez compliqué. Mais encore une fois, par contre, si des gens loin pouvaient utiliser une lentille gravitationnelle pour voir notre système solaire, ça serait cool. Et après, on pourrait le voir, je pense qu'il y a une façon. Donc on a des télescopes, imaginez sur Andromède, des gens qui sont à 2,5 millions d'années-lumière, ils construisent un télescope, j'avais mesuré la taille, mais c'est quasiment la taille de la galaxie qu'il faudrait faire pour voir l'apparition de la Terre. Ils le filment, donc ils gardent ça bien précieusement. On fait un vaisseau spatial qui va à 2,5 millions d'années-lumière, il ne faut pas être pressé. Et on pourrait revoir les trucs. Donc je pense que c'est la seule façon de les voir, c'est qu'il y ait une autre civilisation qui ait filmé ça, qui ait gardé les trucs et qu'on aille les voir. Donc s'il y a des choses à faire dans le futur, ou un livre de science-fiction à écrire, ça peut être pas mal. Mais je pense que ça, c'est un des trucs qui pourrait être faisable. Mais voir notre système solaire, je ne pense pas se former. Sinon, il faut demander à Michel Drucker. Mais c'est...
Une autre question là-haut.
Il n'est pas là, Michel Drucker.
Oui, bonjour.
Bonjour, je suis le cousin de
Michel. Je voudrais revenir sur les trous noirs, s'il vous plaît. Est-ce que ça veut dire qu'on perd de la matière? Est-ce que l'univers fuit? Est-ce qu'il n'est pas étanche? Je voudrais savoir si, au bout du compte, on n'aura pas beaucoup de matière absorbée par les trous noirs dans un temps suffisamment long.
En fait, c'est assez complexe, parce qu'en fait, les trous noirs, on sait que ça existe, mais il y a plein d'autres objets exotiques qui pourraient exister, comme des trous de ver, par exemple, qui seraient un parallèle peut-être vers un autre univers. Mais pour l'instant, on sait déjà que les trous noirs, c'est Stephen Hawking qui l'a montré, les trous noirs perdent de la matière. Il y a ce qu'on appelle le rayonnement de Hawking qui fait qu'il y a de la matière qui part des trous noirs. Mais à mon avis, là, je ne sais pas s'il y a des spécialistes des trous noirs qui sont là, mais tant qu'on n'a pas une théorie qui unit la relativité générale, la mécanique quantique, ça va être hyper compliqué. Parce qu'on a les trous noirs, on arrive à les observer, on sait qu'il y en a. Les autres, c'est des modèles, c'est des objets théoriques, mais qu'on n'arrive pas encore à savoir s'ils existent. Et malheureusement, les grands scientifiques qui s'appellent les frères Bogdanov sont morts. J'ai dit malheureusement, mais je pensais l'inverse. Mais non, on n'est pas heureux de la mort de qui que ce soit, mais surtout à l'IAP, je crois qu'il y a eu des grandes histoires avec les frères Bogdanov. Mais en tout cas, c'est un gros sujet. Enfin, vous m'avez pas posé la question, mais merci de me l'avoir posé. Qu'est-ce que j'aimerais ? J'aimerais aller 100 ans dans le futur et voir ce que... Imaginez, il y a 100 ans, tu parlais tout à l'heure, la découverte des galaxies. Jusqu'à présent, on pensait qu'on ne savait pas qu'il y avait des choses qui allaient au-delà de notre galaxie. Que l'univers était en expansion, la découverte des exoplanètes en 95. Pour vous, c'est récent. Mes étudiants, c'est quelque chose de vieux, mais pour vous, enfin, vous le prenez pas mal, mais pour moi, c'est récent aussi. Je me rends compte qu'en 100 ans, on a appris tellement de choses que j'imagine que si on ne détruit pas notre planète, dans 100 ans, enfin, j'espère que nos connaissances pourront avancer vachement. Ça, c'est un truc qui me plairait vraiment de me dire, tiens... Et ça, c'est l'une des grandes questions. Est-ce qu'on fait fausse route aussi sur la matière noire, sur l'énergie noire ? Vous n'avez pas posé... Enfin, souvent, on parle trou noir, matière noire, énergie noire. J'aimerais bien savoir tout ça, en fait. Peut-être qu'on le saura dans 2 ans, dans 10 ans, dans 50 ans, dans 100 ans. Peut-être qu'on ne le saura pas parce que les gens transpireront trop pour réfléchir.
Bien, merci. Je vous propose de prendre une ou deux dernières questions, commentaires dans la salle et sur Internet.
Merci beaucoup. Je voudrais juste poser une question un peu osée, un peu particulière.
J'ai peur, je bois de l'eau du coup.
Si on fait le parallèle avec les Grecs, par exemple, qui voyaient tout tourner autour de la Terre, que la Terre tourne sur elle-même ou que tout tourne autour de la Terre, à leur échelle, c'était bien difficile de savoir ce qu'il en était. Et est-ce qu'aujourd'hui, il ne pourrait pas y avoir un phénomène qui fait que notre propre histoire passée influence les observations ? Qui fait que tout ce qui nous provient comme rayonnement lointain serait influencé par notre propre passé, en fait.
Je ne sais pas exactement, mais tout ce que je peux dire, que c'est l'une des difficultés de la science, c'est de s'affranchir des idées reçues. Je pense que c'est l'une des choses qui rend la science difficile, et c'est ça aussi qui change. Contrairement aux complotistes, est-ce qu'il y en a dans la salle ? Est-ce qu'il y a des gens cons dans la salle ? Non ? Mais en fait, je pense que le complotiste, il part du principe qu'il a la réponse et il fait tout pour aller vers sa réponse, quitte à enlever tout ce qui ne lui plaît pas. C'est ce qu'on appelle le cherry picking à Marseille chez Didier Raoult. J'espère qu'il n'est pas là non plus. Mais on prend juste ce qui nous plaît et on le garde. Alors que la démarche scientifique, c'est faire l'inverse et ce n'est pas toujours simple. Tout à l'heure, je vous montrais cette image où on a trouvé la planète. En fait, quand on fait une demande d'observation, est-ce qu'on peut parler un peu des financements de la recherche ? Les financements de la recherche, à chaque fois, on va écrire des trucs de plusieurs pages pour dire ce qu'on va trouver dans 10 ans ou dans 5 ans. Et j'exagère un petit peu. Mais même quand on fait une demande d'observation, on dit on va observer ça et on va voir ça. Quand on fait une demande, on dit on prévoit de voir quelque chose, si on le voit, on est content. Si on ne le voit pas, on le refait. On se dit on a dû faire une erreur quelque part. Donc c'est toujours difficile de trouver. Donc la recherche, pour ça, c'est aussi pour ça que c'est important que ce soit reproductible, que chaque fois qu'on fait des observations, qu'on fait des théories... C'est accessible à tout le monde et les gens peuvent vérifier qu'on n'a pas fait de conneries. Et je pense que c'est ça aussi qui fait que ça marche, que la recherche marche. Je sais que je ne réponds pas vraiment à votre question, mais on m'a donné un micro et je parle quand même. Et un message, si je ne l'avais pas passé, mais pour moi c'est hyper important, c'est quand on fait de l'astrophysique, on essaie de répondre à des questions hyper complexes. Et peut-être que des fois on fait fausse route, mais peut-être que le problème qu'on a, c'est qu'on n'a pas utilisé tous les cerveaux disponibles. Si je vous demande de citer... 10 scientifiques. Qu'est-ce qui peut me citer 10 scientifiques ? Ça devrait être 5. Alors, est-ce que quelqu'un peut me citer 5 scientifiques femmes sans Marie Curie ? C'est plus dur, ouais. Mais je pense que c'est important aussi que si on veut vraiment répondre à cette question, on a besoin de tout le monde. Et j'aime bien dire que l'astronomie, c'est pas fait que pour les hommes blancs barbus à lunettes, et c'est quelque chose... Une fois, j'avais dit ça, j'ai oublié le « que ». J'avais dit « l'astronomie, c'est pas fait pour les hommes blancs barbus à lunettes bon, ». Mais je pense que c'est un truc important aussi, c'est de dire que la science, c'est pour tout le monde, et c'est aussi pour ça qu'on fait de la vulgarisation, que tu organises ces conférences. C'est qu'on, non seulement c'est fait pour tout le monde, mais c'est un besoin, en fait. Voilà, je sais que je prêche des convaincus, vous êtes venus voir une conférence scientifique, mais c'est l'une des grosses questions qu'on se pose, nous, en tant que vulgarisateurs, c'est comment faire pour toucher tout le monde ? Parce que là, je parle aujourd'hui, c'est un endroit où les gens qui viennent, ils sont intéressés par la science. On a besoin des connaissances scientifiques. On vit dans un monde qui est face à des défis. J'en rigolais tout à l'heure, mais c'est triste. Enfin, le changement climatique, on vient de vivre une pandémie où les gens ils ont fait n'importe quoi. Enfin, il y a plein de choses, tous ces défis sont scientifiques. Et hier, je regardais le numéro 1 des ventes en astronomie sur Amazon. C'était un livre qui disait qu'on n'était pas allé sur la Lune. Je fais, merde, il y a un problème, quoi. Donc on a besoin de cette culture scientifique et il faut trouver un moyen... pour amener la science là où elle ne va pas. Et ça, c'est aussi le rôle qu'on a un petit peu tous. Vous venez ici, certains sont scientifiques, d'autres ont une culture scientifique, et c'est partager cette culture scientifique parce qu'on en a besoin, parce que sinon on va vraiment avoir des soucis. Et je sais qu'il n'aime pas être mis en avant, mais je tiens à remercier Christophe Cassou qui fait beaucoup de choses pour ça, Christophe Cassou qui se bat pour le climat, qui est auteur principal du GIEC. Et en fait, il se bat pour notre avenir, c'est quelqu'un qui est conscient de ce qui se passe, et il reçoit des menaces de mort pour ce qu'il fait. Quoi. Pour moi, c'est vraiment hallucinant, et je tiens vraiment à... Enfin, c'est une démarche que j'admire, et je pense qu'on a besoin de plus de Christophe Cassou, et j'ai envie de m'arrêter là. Un autre truc, je vais m'arrêter sur Christophe Cassou, et après, une citation qui est liée à ça, c'est Hubert Reeves, qui disait, en fait, l'homme mène une guerre contre la nature, et s'il la gagne, il est perdu, et je pense que c'est quelque chose d'important à garder d'Hubert, qui est venu souvent ici, en fait. Merci.
Merci à toi. Et bien donc, nous allons nous arrêter là pour cette soirée. Merci beaucoup. Je vous rappelle qu'on se retrouve le mois prochain, le mardi 1er octobre, avec Jean-Charles Cuyande, qui nous présentera les premiers résultats du satellite observatoire Euclide. Et puis, rentrez bien ceux qui sont ici. À bientôt ceux qui sont sur Internet. Et merci de nouveau, Eric. Bonsoir.
Est-ce que tu as coupé la caméra ?